de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, selon le cœur de 3325 kHz.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Java S explore les opportunités de marché aux États-Unis. Le président tient à nouveau une réunion pour la préparation de la nouvelle capitale. Les dirigeants mondiaux participent à la construction de nouvelles capitales du pays pour la confiance des investisseurs. Le vice-ministre de Tourisme et de l'économie créative discute du tourisme durable avec l'Association de tourisme de l'Asie et du Pacifique. Asita a dit « Le tourisme halal dure depuis longtemps à Aceh ». Et enfin, le gouvernement britannique inaugure la mission britannique pour l'ASEAN. Voici le journal complet. Le gouvernement provincial de Java Oriental explore la coopération dans les domaines du tourisme, des ressources humaines et du commerce avec les États-Unis. Cela a été révélé après la réunion de l'ambassadeur adjoint d'Indonésie aux États-Unis, Iwan Freddy Hari Susanto, avec le gouverneur de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, à Surabaya, Java Oriental, mardi. Selon Iwan, pour le domaine du tourisme, l'argent dépensé par les Américains pour les vacances est énorme. De plus, la visite moyenne effectuée est également assez longue. Au cours de la réunion, l'ambassadeur adjoint indonésien aux États-Unis, Iwan Freddy Hari Susanto, a également discuté spécifiquement des efforts visant à améliorer les ressources humaines à Java Oriental à travers une série de programmes de coopération offerts aux États-Unis.
Di sisi lain, satu hal yang secara spesifik kita bahas bersama itu adalah terkait mengenai upaya untuk meningkatkan.
Une chose très spécifique dont nous avons discuté est liée aux efforts visant à améliorer les ressources humaines dans l'Est de Java à travers des programmes de coopération offerts par les États-Unis. Car les ressources humaines sont l'un des programmes prioritaires du gouvernement indonésien et constituent également une préoccupation majeure du gouverneur. C'est une chose que nous devons bien explorer. Nous améliorons divers programmes de coopération. Pendant ce temps, le gouverneur de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, espère que cette collaboration se poursuivra de manière systémique et synergique. Khofifah espère que la coordination pour réaliser la coopération en étendant le marché des produits de Java Oriental en Amérique pourrait être maximisée. Le président Joko Widodo a présidé une réunion du cabinet limité qui a discuté des préparatifs du déménagement de la capitale d'État mercredi après-midi au bureau du président Jakarta. Dans sa directive, le président a souligné un certain nombre d'aspects en vue du déplacement de la nouvelle capitale d'État. En termes de réglementation, le président a demandé à son personnel de préparer un certain nombre de projets de loi et de règlements concernant la nouvelle capitale de l'État. Le président espère que le projet de loi pourra être achevé dès que possible avant qu'il puisse être discuté immédiatement par le Parlement ou DPR. Le président a également demandé au ministre de l'Agence nationale de planification du développement, ou BAPENAS, de préparer l'agence d'autorité de la capitale. Cette agence devrait être immédiatement constituée afin de pouvoir se concentrer sur la préparation du déplacement de la capitale du pays. Le président a également souligné les questions relatives à la conception de la capitale du pays. Comme on le sait, il y a quelque temps, le gouvernement a déterminé le vainqueur de la conception de nouvelle capitale qui reprend le thème Negara Rimba Nusa. Lors de la réunion restreinte du cabinet, le président attend des commentaires concernant la conception, y compris les aspects de transport dans la capitale du pays. À cet égard, le président souhaite que la nouvelle capitale de l'État adopte des véhicules respectueux de l'environnement.
Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah.
Je pense qu'une grande idée pour la conception existe déjà, mais aussi cette conception est une conception qui peut être améliorée et changée. J'espère donc que plus tard, tout le monde pourra apporter sa contribution concernant cette conception liée au transport, car dans la nouvelle capitale, les transports en commun utiliseront généralement des véhicules autonomes. Et le véhicule privé utilisera également une voiture autonome. Donc la conception est comme ça. S'il vous plaît, aidez le ministre des Transports et le ministre de la Recherche à en parler concernant la préparation. Concernant l'infrastructure, si nous sommes vraiment prêts, l'infrastructure est également orientée vers l'utilisation de véhicules électriques et de véhicules autonomes. En outre, le président Joko Widodo a également souligné la question des terres dans la nouvelle capitale de l'État. Le président a demandé au ministre d'Agraria, en collaboration avec le ministre de l'Environnement, de résoudre immédiatement le problème foncier afin que le concepteur de la nouvelle capitale de l'État puisse immédiatement réaliser la conception finale de la capitale. En ce qui concerne les aspects de financement, le président a déclaré que le gouvernement avait une partie à travailler sur les clusters gouvernementaux, y compris le palais présidentiel et les bâtiments du ministère. Au-delà de cela, le plan de financement pour la construction de la nouvelle capitale peut utiliser le plan à la fois la coopération du gouvernement et des entités commerciales et impliquant le secteur de l'investissement. Le président Joko Widodo estime que le gouvernement allouera des fonds d'environ 100 billion rupiah spécifiquement pour construire des clusters gouvernementaux.
Yang berkaitan dengan skema anggaran. Yang pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU.
Lié au plan budgétaire, le premier est l'infrastructure de base sur laquelle travaillera le ministère des Travaux publics. Ensuite, les clusters gouvernementaux liés au palais et au bâtiment du ministère seront également effectués par le gouvernement. Au-delà de cela, nous les donnons soit au processus partenariat public-privé ou P3, soit par l'investissement. J'espère donc que cela est vraiment calculé en détail. Le gouvernement doit dépenser combien de fonds. Mais si je regarde cela, je pense que le gouvernement ne dépensera pas plus de 100 billions rupiah. En outre, le président Joko Widodo a également souligné les problèmes liés à l'environnement. Il a déclaré que la nouvelle capitale de l'État préparerait plus tard des terres spéciales destinées au processus de semis des plantes. Le terrain de 100 hectares préparé par le gouvernement sera utilisé pour 17 millions de pépinières. Le ministre indonésien de la Coordination des Affaires maritimes et des Investissements, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que la nomination de trois personnalités majeures dans le monde comme comité directeur pour la construction d'une nouvelle capitale à Kalimantan Oriental faisait partie des efforts visant à renforcer la confiance des investisseurs mondiaux. Comme rapporté par Antara, le ministre Luhut a déclaré mercredi que les trois personnalités étaient Cheikh Mohammed bin Zayed, Masayoshi Son et Tony Blair. Cheikh Mohammed bin Zayed est le prince héritier d'Abu Dhabi, alors que Masayoshi Son est le président directeur général de SoftBank et Tony Blair est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007. Le rôle est de donner des conseils, de promouvoir l'Indonésie et de bâtir la confiance. Le ministre a déclaré que la nomination des trois personnalités ne pouvait être dissociée du projet du gouvernement de créer un fonds souverain ou l'agence de gestion des investissements. Labis Minister Indonesia de Tourisme et de l'Économie Créative, Angela Tanusudibio, a tenu une réunion avec l'Association de Tourisme de l'Asie et du Pacifique mercredi. Ils ont discuté de tourisme durable. Comme l'a rapporté Antara, Angela Abruni Darussalam a déclaré mercredi que le résultat de la réunion avec l'Association de Tourisme de l'Asie du Pacifique se concentrait sur la coopération pour le développement du tourisme durable en tant que principal norme pour améliorer la qualité des destinations touristiques et développer les ressources humaines dans le secteur du tourisme. Pendant ce temps, le président directeur général de l'Association de Tourisme de l'Asie et du Pacifique, Mario Hardy, dans sa présentation, a appelé la région d'Asie et du Pacifique à être la région la plus visitée du monde. L'Association des sociétés de voyage indonésiennes, ou ASITA, Aceh, a déclaré que l'industrie du tourisme halal fonctionnait depuis longtemps à Aceh avant que le thème soit présenté au sommet mondial du tourisme halal à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis en 2015. Cela a été déclaré par le secrétaire d'ASITA Aceh, Toto Julianto, mercredi. Il a expliqué qu'au cours des dernières années, il avait également suivi des règles fixées par les agences concernant les installations nécessaires aux touristes musulmans nationaux et étrangers. Cela commence par proposer des forfaits de voyage se référant aux règles de la vie, voyager, déterminer les destinations touristiques, l'hébergement et la nourriture dans les destinations touristiques de la province la plus occidentale de l'Indonésie. Le thème tourisme halal a été introduit lorsque le sommet mondial du tourisme halal a eu lieu à Abu Dhabi en 2015. Le thème a été introduit parce qu'il réalise la part de marché des pays musulmans qui sont si grands tels que l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, la Malaisie et l'Indonésie. Les touristes musulmans ont besoin de facilités de croûte, de nourriture halal, de valeur ajoutée lors de voyage. Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire de la ministre de l'Asie-Pacifique, Heather Wheeler, a inauguré mercredi la mission britannique pour l'ASEAN à l'ambassade britannique à Jakarta. Wheeler a déclaré dans son discours que ce n'était pas seulement une question de l'influence des pays d'Asie du Sud-Est sur la Grande-Bretagne dans le monde, mais aussi une question de reconnaissance du rôle important de l'ASEAN dans la représentation des intérêts régionaux et le renforcement du système multilatéral. Concernant ce rôle, Wheeler a déclaré qu'il avoue des preuves concrètes de sa visite en Indonésie du 14 au 15 janvier 2020 et au Laos, au Cambodge et en Thaïlande l'année dernière. Dans le domaine de la défense, par exemple, la Grande-Bretagne a établi des relations spéciales avec 8 pays de l'ASEAN par le placement attaché de défense et de conseillère à la défense au Brunei Darussalam, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. Dans le domaine de l'éducation, plus de 40 000 étudiants de l'ASEAN étudient actuellement au Royaume-Uni et 36 000 enseignants d'anglais des pays de l'ASEAN ont reçu une formation de la Fondation de l'éducation du gouvernement britannique, The British Council. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis de l'antenne, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, Omnibus Law peut accélérer la croissance économique. Lors d'une réunion restreinte du cabinet mercredi le 16 janvier, le président Joko Widodo a ordonné à ses ministres d'achever immédiatement une loi qui pourrait accélérer l'économie nationale en 2020. Omnibus Law est conçu pour cibler un grand problème qui peut révoquer ou modifier certaines lois pour être plus simple. Pour stimuler la croissance économique, le gouvernement doit agir rapidement avant que la croissance économique prévue de 5,5% en 2020 puisse être réalisée. Il y a trois concentrations sur Omnibus Law 2020, à savoir la loi sur la fiscalité, la création d'emplois et l'autonomisation des MPME. Lors de la réunion restreinte du cabinet, le président Joko Widodo a ciblé l'élaboration d'Omnibus Law relatif à l'emploi et à la fiscalité qui doit être achevé avant 100 jours ouvrables du gouvernement du cabinet Indonésia Maju ou Indonésie Avancée. Pour cette raison, il a changé tous les ministères ou les institutions, y compris la police nationale, l'Agence nationale des renseignements, ou BIN, et le bureau du procureur général, d'établir une communication à sens unique et de pouvoir communiquer avec les organisations impliquées à l'avenir. Le président Joko Widodo espérait que la discussion sur Omnibus Law pourrait être bientôt terminée. C'est parce que cela peut faire l'Indonésie en paix avec un bon écosystème des affaires. Pendant ce temps, le ministre de coordination de l'économie, Airlangga Hartarto, a déclaré que le projet de loi sur Omnibus Law était prêt à être ratifié avant l'Idul Fitr 2020. Selon lui, la discussion au niveau interne du gouvernement était terminée. Par conséquent, il a veillé à ce que le projet de loi puisse être soumis à la Chambre des représentants pour être immédiatement ratifié. L'une des principales priorités en cours d'élaboration dans le projet d'Omnibus Law est la main d'œuvre. Omnibus Law est nécessaire pour augmenter la croissance économique indonésienne qui a tendance à stagner en 2019. La complexité de la bureaucratie qui entrave les activités commerciales est la principale cible de l'élaboration des projets de loi. Par conséquent, l'achèvement et la mise en œuvre d'Omnibus Law sont très nécessaires pour le gouvernement aussi longtemps que pour la prospérité et le bien-être de la population. Cependant, il doit être veillé à nouveau que les parties liées peuvent trouver la bonne solution pour faire face aux problèmes économiques actuels qui continuent de se développer et d'être plus complexes. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons par l'adoption de la loi anti-alcool aux États-Unis. Le 16 janvier 1919, on a officiellement adopté le 18e amendement à la Constitution des États-Unis. Il contient une interdiction de fabriquer, vendre, exporter ou bien importer de l'alcool aux États-Unis. Mais le gouvernement américain restait impuissant pour la lutte contre la distribution d'alcool dans le pays. Ainsi, en 1933, on a adopté le 21e amendement qui a retiré la prohibition de la production et de la vente de l'alcool. Le 16 janvier 1991, le président américain George Bush a annoncé l'opération Tempête du désert, ou une opération militaire visant à mettre fin à l'occupation du Koweït par l'Irak. L'Irak avait envahi et annexé le Koweït il y avait des mois auparavant. Pendant deux semaines, des coalitions dirigées par les États-Unis des deux douzaines de pays ont déployé plus de 900 000 soldats dans la région. La plupart étaient placés à la frontière saoudo-irakienne. Le délai de retraite annoncé par les États-Unis a pris fin le 15 janvier sans intervention de l'Irak, de sorte que les forces de la coalition ont commencé un bombardement de 5 semaines du commandement irakien par voie aérienne et maritime. Les forces de la coalition ont rapidement expulsé l'Irak du Koweït, allé en Irak et ont conclu un cessez-le-feu en 100 heures. Tandis que les victimes de la coalition ont atteint des centaines, l'Irak a perdu des dizaines de milliers de soldats. La suite, Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente en Afrique. Le 16 janvier 2006 est une journée historique pour l'Afrique, en particulier le Libéria. Une femme a officiellement dirigé le pays, qui s'appelle Ellen Johnson Sirleaf. Ce jour-là, elle a prêté serment en présence de Libériens et d'invités du pays, y compris la première dame des États-Unis, Laura Bush, la femme du président George Bush et secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Lama sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati salahku sendiri. Di kaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa mutiara yang hilang. Hanyalah kiasan, tapi di kau orangnya. Kini aku telah bertemu dia yang telah lama ku cari. Tiara yang hilang dulu, jumpa lagi. Sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati salahku sendiri. Di kaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa mutiara yang hilang. Hanyalah kiasan, tapi di kau orangnya. Kini aku telah bertemu dia yang telah lama ku cari. Tiara yang hilang dulu, jumpa lagi.
Voilà la chanson intitulée Mutiara yang hilang, qui signifie Perle manquant, chantée par Jelita Septiana. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie. Mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulée Le ministère de l'Environnement et des Forêts, se concentre sur la réhabilitation de l'île de Java par la foresterie sociale. Le ministère de l'Environnement et des Forêts se concentre cette année sur la réhabilitation de Java par le programme de foresterie sociale. Le directeur général de la foresterie sociale et du partenariat environnemental du ministère de l'Environnement et des Forêts, Bambang Suprianto, a déclaré que dans cette réhabilitation, il y aura les ajouts de la carte indicative et des zones de foresterie sociale pour les permis d'utilisation forestière sociale à Java. Bambang Suprianto à Jakarta lundi a déclaré que la dégradation des forêts sur l'île de Java était inférieure à 10% et il avait cartographié l'emplacement et il est devenu le lieu du permis d'utilisation forestière sociale. Quant à la troisième révision de la carte indicative et des zones de foresterie sociale, le ministère de l'Environnement et des Forêts a réservé 13,8 millions d'hectares à la foresterie sociale. Tandis que l'ajout est pour le permis de l'utilisation forestière sociale à Java et d'environ 326 000 hectares couvrant les régions de Java oriental, Java occidental, Java central et Banten. L'emplacement est dans 44 districts, 74 sous-districts. Selon Bambang, la réalisation du programme de foresterie sociale au 31 décembre 2019 a donné accès à la gestion à 818 457 ménages, dont le total est de 6 411 permis ou droits de gestion ou de 4 048 millions d'hectares. Il a déclaré, après le permis d'utilisation forestière sociale de l'île de Java, approuvé par le ministre de l'Environnement et des Forêts, on fournirait immédiatement l'aide de l'instructeur forestier. Ils aideront avant et après l'octroi de licence, prépareront des plans de travail et détermineront quelle culture et quel schéma agroforestier qui convient à la zone désignée. Bambang a déclaré qu'il souhaitait augmenter le nombre d'assistances mais réduire l'objectif de l'étendue de la foresterie sociale en 2020. On l'a fait parce que le ministère de l'Environnement et des Forêts souhaitait améliorer l'aide à l'accès afin que les groupes d'entreprises de foresterie sociale qui fonctionnaient auparavant deviennent de meilleure qualité et vont dans une classe supérieure. En novembre 2019, 5208 groupes d'entreprises de foresterie sociale avaient été créés dans le programme de foresterie sociale en 33 provinces.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapat. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Kahitna, dont le titre est « Andai dia tahu » ou en français « S'il savait ». Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, je vous présente le village touristique de Batu Dulang à Nusa Tenggara Ouest. Chers auditeurs, si vous voyagez à Sumbawa Besar, la capitale de la province de Nusa Tenggara Ouest, il y a un village touristique de Batu Dulang que vous pouvez visiter. Le village est situé à une altitude de 850 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont la température fait de 18 à 21 degrés Celsius, offrant une atmosphère rurale naturelle avec de l'air frais. Vous pouvez regarder le paysage de la ville de Sumbawa Besar, l'île Moyo et le mont Tambora. Le village touristique de Batu Dulang est situé à environ 26 km de la ville de Sumbawa Besar au sud. Nous pouvons y arriver en 45 minutes environ. Chers auditeurs, au village touristique de Batu Dulang, vous pouvez écouter le chant de dizaines d'espèces d'oiseaux à tout au long de la route. Il y a 25 espèces d'oiseaux à Batu Dulang. Parmi eux sont les oiseaux de Punglor, Sameong, Piver, Kenanang Kuning, Oiseau Fan et Ibu. Dans ce village, vous pouvez participer à des activités communautaires telles que la production de café Arabica et Robusta de manière traditionnelle. Vous pouvez également visiter la galerie locale UMKM ou micro, petite et moyenne entreprise sous forme de produits forestiers tels que le miel, le café, l'huile de noix de coco et les fruits comme le mangoustan. À Batu Dulang, des forfaits de tourisme de récolte et de processus d'emballage du miel et du café moulu, le kurkuma et la noisette devenant l'huile, ils sont disponibles. Le village est également producteur du miel forestier de qualité, car la forêt est toujours très bonne comme source de nourriture pour les abeilles forestières. Le village touristique de Batu Dulang est le premier village à mettre en œuvre une récolte durable de miel forestier de technique de drainage du miel sans essorage à la main sous la direction du réseau de miel forestier de Sumbawa depuis 2008 jusqu'à présent. Chers auditeurs, au village de Batu Dulang, vous pouvez également profiter de la fraîcheur de la cascade de Tiu Dua. La distance entre le village de Batu Dulang et l'emplacement de la cascade Tiu Dua est environ 3 km ou environ 5 minutes en moto, puis à pied pendant 25 minutes. La hauteur de la cascade est d'environ 8 mètres. Au-dessus de la cascade, il y a de grandes piscines pour se baigner. Le village de Batu Dulang a déjà préparé plusieurs tours pour prendre des photos. Dans ce village touristique, 4 lieux d'hébergement sont disponibles, chacune disposant de 3 chambres. La charge est de 75 000 rupiah par nuit. Voilà le village touristique de Batu Dulang à Nusa Tenggara Ouest.
Takdirmu, takdirku, memberi kita cinta sempurna. Hatimu, hatiku, merasuk dalam kisah yang indah. Tak pernah terfikirkan, aku melangkah jauh tanpamu. Tak pernah terbayangkan
jika bukan cintamu yang temani aku, aku bisa
Chers auditeurs, c'était la chanson de Latinka, intitulée « Aku bisa mati », qui signifie « Je peux mourir ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous informe des informations intéressantes en Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, en formant sur les lycéens professionnels indonésiens qui remporte le titre de champion international de mode de Singapour. La fière réalisation a été à nouveau inscrite par les enfants de la nation. Hier, exactement le 5 janvier 2020, 4 étudiants du lycée professionnel N. Ubanat Kudus ont remporté le prestigieux Grand Prix Sakura Collection Asia Student Awards 2020 à l'Atrium Jewel de l'aéroport Changi à Singapour. Les réalisations des étudiants indonésiens ont été présentées par Dania Pulungan, 2e champion, et Najila Mufida, 3e champion, Salsabila Nizatin, 4e champion et Fira Aulia, 5e champion. Dania Pulungan, l'un des champions de l'événement de Grand Prix Sakura Collection, Asia Student Awards 2020, porte le concept de Shinogiri, qui est une collaboration d'idées de Shinobi et Onigiri. Shinobi est un autre nom pour ninja, et Onigiri est un type de nourriture de roue populaire parmi les Japonais. Dania a déclaré que le processus créatif qui l'a amené à devenir champion a commencé il y a plusieurs mois en trouvant le bon concept de dessin en accord avec le thème de concours. Il a pris l'idée de Shinogiri car ces deux éléments ont l'attrait d'une couleur monochromatique qui s'unit pour produire un look urbain et streetwear. Dania a en outre expliqué que la couleur noire du Shinobi symbolise le fait d'être fringant, invisible et glissant. Ensuite, la couleur blanche sur Onigiri symbolise une signification propre et simple, deux philosophies de couleurs très intéressantes pour faire urban streetwear. Les quatre étudiants professionnels ne sont pas faciles à remporter des titres dans l'épreuve qui se déroule depuis cette année consécutive. Dans la phase initiale du concours, qui est novembre 2019, les étudiants du lycée professionnel Nubanat Kudus doivent rechercher des idées et soumettre leur concept de dessin à l'organisateur. Ils doivent rivaliser avec des milliers de participants des diverses écoles de mode de 6 pays d'Asie du Sud-Est. En conséquence, l'école professionnelle de la Fondation Jarum a envoyé avec succès 7 étudiants de 10 finalistes représentant l'Indonésie pour concourir pour des prix, collaborer avec le projet Citizen Eco Bag et une expérience d'apprentissage à Esmod Japon, Tokyo. C'était l'Indonésie en couleur.
Turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu kau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi di sini untuk setia. Coba untuk
untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia.
C'était la dernière chanson intitulée Setia, ou en français fidèle, chantée par J. Costé. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Le magazine musical d'aujourd'hui vous présente une chanson de De Mercy. De Mercy, c'est un groupe de musique indonésien formé à Medan en 1965. Les premiers membres étaient Erwin Harahap comme guitariste, Rinto Harahap comme bassiste, Reynold Panggabean comme batterie, Rizal Arshad comme guitariste et vocaliste et Iskandar comme claviériste. Le nom de De Mercy était populaire dans les années 1970. Ils chantent des chansons pop dont le thème était l'amour. Tiada Lagi, ou en français Il n'y en a plus, est une chanson qui rend célèbre le nom de De Mercy. Bien que la chanson soit assez mélancolique, elle avait une bonne composition musicale à l'époque. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée Tiada Lagi, ou en français Il n'y en a plus, chantée par De Mercy. Bonne écoute.
Yeah. Indonesia. Voice of Indonesia.
Aku menangis
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.